Chapitre 4e. Le lendemain, je fus convoqué au bureau de l'officier commandant le camp. En m'y rendant, je rencontrai Bisson et Pelet. Tout en feignant assez maladroitement de ne pas me voir, ils me firent des signes d'intelligence. Je m'approchai d'eux et je leur dis de ne pas faire de gestes chaque fois qu'ils me voyaient. Je ne sais pas si les Allemands agissent avec tout le monde de la même façon, mais j'ai toujours eu l'impression qu'ils me considéraient avec une attention particulière. Au camp de la Mure, je m'en étais déjà perçu. Alors que je me croyais perdu au milieu de mes camarades, que je n'avais absolument rien qui pût me distinguer d'eux, j'avais surpris plusieurs fois le regard d'un des officiers posé sur moi. Les attentions d'un supérieur dans la vie en commun sont toujours inquiétantes, car il est difficile de savoir si elles sont causées par la sympathie ou l'antipathie, tant les manifestations extérieures de ces deux sentiments se ressemblent. Cet officier avait un visage maigre, si maigre qu'à certains endroits la peau était à même les os. Derrière ce visage décharné, il était difficile de savoir ce qu'était l'âme. Quand je surprenais cet officier en train de me regarder, il ne détournait pas la tête, mais rien ne montrait qu'il me voyait. Si une circonstance quelconque me tirait de l'anonymat, il ne me regardait alors plus du tout. Je pensais que j'étais peut-être victime de mon imagination. Je l'observais en cachette pour voir si l'attitude qu'il avait avec moi n'était pas tout simplement son attitude habituelle. Jamais il ne me sourit, ni n'eut un mot ou un geste qui eussent pu me rassurer. Cette situation était profondément désagréable. Sans me donner aucun avantage, elle m'ôtait ce de n'être rien, de me négliger si j'en avais envie, de me sentir en sécurité parce qu'inconnu. À cause d'une sympathie que je n'étais même pas certain d'éveiller, j'étais obligé de me surveiller, de m'occuper de mon apparence, d'éviter de parler, quand on pouvait me voir, à ceux de mes camarades qui étaient mal notés. Je me trouvais finalement dans une position fausse, et je ne serais pas étonné après tout que ce fût uniquement ce que ce sale boche recherchait. Je me rendis donc au bureau du camp. Je me doutais bien que la tentative d'évasion devait être pour quelque chose dans cette convocation. Celle-ci ne m'étonnait pas. Ce qui s'était passé à la Mure se passait ici en plus grand. J'avais beau n'être qu'un soldat de deuxième classe, certains signes, je m'excuse de le dire, trahissaient mon éducation bourgeoise et montraient que socialement j'occupais une place légèrement au-dessus de celle de la plupart de mes camarades. Ces signes-là n'échappent pas aux Allemands. Avec ce goût qu'ils ont des distinctions secrètes, ils s'efforçaient par toutes sortes de petits manèges, sous-entendus, réticences, de me faire comprendre qu'ils avaient remarqué cette différence. Au commencement, je fis semblant de ne pas m'en apercevoir. Je suivais le sort de mes camarades, évitant soigneusement tout geste qui pût me dispenser d'une corvée, par exemple, comme s'il ne me venait pas à l'esprit que ce fût possible. Mais à la longue, cela devint difficile, sans risquer de provoquer cette colère qui finit par envahir ceux dont on néglige les avances. Les Allemands m'amenèrent ainsi, malgré moi, à observer vis-à-vis d'eux ce minimum de politesse des voisins brouillés qui se saluent sans se parler. Ils ne trouvèrent pas cela suffisant. En affectant de croire qu'un homme d'un certain niveau souffrait plus que les autres de l'anéantissement de son pays et qu'il méritait des égards particuliers, ils cherchèrent à provoquer chez moi une sorte de reconnaissance et à créer entre nous cette espèce de lien qui unit les gens après qu'ils se sont rendus un service insignifiant ou après qu'ils se sont simplement dit pardon. Cela devenait excessivement gênant, d'autant plus que mes camarades n'étaient pas si primitifs que les Allemands s'imaginaient, et ils remarquaient bien l'estime que ceux-ci me témoignaient. Ce fut ainsi que petit à petit, ces officiers se persuadèrent qu'ils pouvaient se servir de moi comme d'un intermédiaire quand ils cherchaient à obtenir quelque chose des Français par persuasion, et c'était la raison pour laquelle, sans doute, on m'avait fait appeler. J'ouvris la porte du bureau. Je saluai en claquant les talons, puis j'ôtai mon calot qui avait plutôt l'air d'une calotte. Je fis quelques pas rapidement et je me remis au garde-à-vous près de la table où était assis le chef du camp. Cette attitude disciplinée me dégoûtait. Je savais que beaucoup de mes camarades entraient dans cette pièce en traînant les pieds, se faisant houspiller pour saluer, pour se découvrir, pour se mettre au garde-à-vous. Mais l'attention dont j'étais l'objet me contraignait à me faire violence, à prendre un genre que je savais apprécier, un peu le genre qu'un homme fier prend dans la vie normale avec des gens beaucoup plus riches que lui. L'officier, un de ces Allemands dont on dit qu'ils sont autrichiens, me pria de m'asseoir. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, débonnaire, à moitié chauve, mal rasé, qui ne ressemblait pas du tout à l'idée qu'on se fait d'un officier allemand. Il inspirait cette sympathie qui se dégage des hommes qui paraissent n'attacher aucune importance à la charge qu'il leur est confiée. Le bureau, petit, sommairement meublé, était surchauffé. Un planton enfonçait à chaque instant de grosses bûches dans le poêle. On sentait, en présence de cette installation de fortune, que rien cependant ne manquait, que si nous, Français, nous n'avions jamais été si malheureux, les Allemands, eux, connaissaient les meilleurs moments de la guerre. L'officier m'offrit une cigarette. Je l'acceptai. Mais quand il voulut me donner du feu, je lui dis que je la gardais pour un de mes camarades. Je constatai alors qu'on m'avait appelé pour un tout autre objet que celui auquel je m'attendais. On désirait recourir à moi pour me confier le commandement d'un détachement que je désignerais moi-même et qui serait envoyé à une trentaine de kilomètres du camp pour renforcer celui qui travaillait déjà à la construction d'une voie de chemin de fer. Dès que je fus de retour parmi mes camarades, je leur annonçai la bonne nouvelle. La chance était avec nous. Nous étions tous frappés par le fait que nous avions été si près de la manquer. La veille, nous avions failli nous lancer dans une aventure vouée d'avance à un échec, et quelques heures après, au moment où nous étions rongés de mécontentement et de regrets, les Allemands eux-mêmes nous ouvraient la porte du camp.